La commande a été naissance et avatar de la discipline française. On peut discuter peut-être sur le terme d'avatar, mais ce n'est pas tellement l'objet. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que cela va nous permettre d'ouvrir le débat sur la notion de discipline. Et en s'interrogeant d'abord sur est-ce qu'une discipline peut naître ? Alors, pas en s'interrogeant directement, mais plutôt en s'interrogeant sur un contexte historique qui fait qu'à un moment, a posteriori, on a pensé qu'une discipline était née. Et peut-être en posant d'autres questions à partir de cela, qui me paraissent intéressantes, c'est y a-t-il une naissance unique du français comme discipline, allant de l'élémentaire à la fin des études secondaires, ou plutôt apparition de plusieurs configurations? Et bien sûr, c'est plutôt, vous vous en doutez, cette optique que je vais prendre, et en s'interrogeant donc sur les liens qu'entretiennent ces différentes configurations, à quel moment émergent-elles, dans quel contexte, voilà. D'autres questions aussi, mais cette fois que je n'aborderai pas, mais qui nous poussent aussi à nous interroger sur cette notion de naissance. Il y a des apparitions plus tardives du français comme discipline, hein, par exemple donc dans les filières professionnelles. Qu'en est-il? Et puis, pour justifier la dernière partie, les mouvements qui la traversent, la modifient, sont-elles la même à tous les niveaux, dans toutes les filières? Reposent-elles justement sur les mêmes questions et reposent-elles donc sur les mêmes débats? Juste un mot, je pense jusqu'à quelle heure? Tu ne m'as pas dit.
20 minutes.
20 minutes, d'accord. Alors, ce qui va être un petit peu central là, c'est la notion de débat. Parce qu'il me semble que la notion de débat est une manière d'appréhender historiquement ce qui relève justement de la discipline. Et pour cela, bien sûr, il y a toujours deux types de débats, hein, juste un petit mot là-dessus. Des débats qui sont internes à l'institution, c'est-à-dire qui sont le fait des enseignants, des membres de l'institution, quels qu'ils soient, membres inspecteurs et autres, et qui généralement portent sur la nécessité d'adapter la discipline au changement du contexte, aux nouvelles générations d'élèves et aux nouveautés scientifiques telles qu'elles apparaissent. Qui dit débat dit bien sûr position adverse, hein, il y a toujours les défenseurs du changement et puis ceux qui sont pour un respect d'une tradition, donc qui se justifie pour différentes raisons. Par rapport à ces débats internes, il y a des débats bien sûr externes qui sont là portés beaucoup plus par les politiques, portés par la société civile, hein, et qui souvent sont, enfin souvent non, mais dans certains cas peuvent même être relayés donc par la presse. On en a vu certains cas. Voilà. Dans ce cas-là, donc on prône surtout une interrogation sur les finalités de la discipline, sur la nécessité ou non de l'adapter aux évolutions scientifiques, aux évolutions sociales et autres. Donc, je voulais simplement vous poser un peu le cadre de cette réflexion. Il me semble que interroger la naissance, bien sûr, c'est s'interroger sur les débats qui vont donner lieu à cette naissance. Cette naissance ou ces naissances, naturellement, hein, puisque je vais essayer de voir que là, nous avons des variations importantes. Alors, tout de suite, je cite mes sources. Je ne suis pas du tout spécialiste du second degré, hein, mais par contre, je travaille beaucoup sur le premier degré, enfin sur l'école élémentaire. Donc, pour le second degré, je me suis appuyée sur les travaux d'André Chervel, de Violaine Oudarmero, de Martine Jay. Pour la période 1960-1970, eh bien, j'ai pris appui sur un article, hein, que nous sommes en train de coécrire avec une collègue dans le cadre d'une recherche à ENR. Voilà. Pour l'élémentaire, par contre, hein, il s'agit de travaux plus personnels sur lesquels donc, je m'appuie. Alors, je reviens maintenant sur la notion de naissance de la discipline. Pour définir, qu'est-ce que la naissance d'une discipline ? Si on prend la définition de Chervel, eh bien, la naissance d'une discipline, c'est le moment où on va trouver un contenu d'enseignement, où on va trouver des exercices, où on va trouver des pratiques d'incitation et de motivation, et où on va trouver un appareil d'examen, hein, un ensemble d'examens, qui vont fonctionner en collaboration et qui vont être en lien avec des finalités définies pour cette discipline. Hein, donc, naissance, cela veut dire donc qu'on a un contenu des exercices, des pratiques de mise au travail en quelque sorte, et des examens pour justement amener, hein, conduire vers une finalité qui a été définie plus ou moins socialement et plus ou moins clairement. Dans le cas du français, eh bien, il va nous falloir prendre en compte deux naissances, deux niveaux particuliers. Une naissance qui a lieu dans le secondaire et une élaboration, en tout cas, qui relève du primaire. Donc, dans le secondaire, la date de naissance communément admise est le 19 juin 1880. C'est un décret qui remplace le discours latin par l'épreuve de composition française. Pourquoi ce décret ? Il vient s'inscrire dans un débat qui occupe déjà toute la première moitié du XIXe siècle. Ce débat est, naturellement, comment peut-on ou doit-on enseigner la langue en français, notamment dans le secondaire pour les garçons. L'enseignement classique donc repose sur les humanités qui constituent le socle de l'enseignement de la langue, et cet enseignement est justifié par un ensemble de principes éducatifs solides, vraiment solides, hein, c'est-à-dire qu'ils fondent une base qui est reconnue et qui est admise par tous depuis longtemps. Cette base, c'est que l'étude des textes anciens constitue une éducation complète des individus. Elle apporte une formation de l'esprit et de l'intelligence. Cette éducation repose sur l'art oratoire qui est nécessaire à la formation des élites. C'est une éducation détachée de toute préoccupation utilitaire. Et, dernier point important, le détour par le latin, finalement, conforte la clarté de l'expression et la clarté de la pensée. Donc, conclusion, passer par les humanités est un excellent moyen d'apprendre à écrire et à lire le français. Alors, un certain nombre de facteurs vont venir ébranler ces certitudes, hein, bien appuyées, et c'est surtout à partir de 1860 que le débat va prendre de l'ampleur et qu'on va voir s'opposer les tenants de la tradition, qui donc justifient, hein, l'emploi du latin par la rigueur de la formation intellectuelle et linguistique, et les réformateurs donc, qui vont demander une adaptation à la modernité. De plus, la défaite de 1870, hein, va jouer un rôle important, puisque cette défaite va conforter pour certains l'idée qu'il est temps de changer les contenus d'éducation, les modalités, les formes, les méthodes, et qu'il faut absolument moderniser l'enseignement du lycée pour former une élite plus performante. Alors, les défenseurs du changement, que prônent-ils ? Quels sont leurs arguments ? Premièrement, ils mettent en avant les résultats de plus en plus faibles aux différentes épreuves d'examen. On constate, hein, un échec massif, baccalauréat, licence... Voilà. Et même, oui, exactement, mais c'est vrai que ça dit des choses. Baccalauréat, licence et même agrégation. Un dégoût de plus en plus fort des élèves pour ces disciplines considérées comme arides. Les défenseurs du changement s'interrogent aussi sur l'utilité de ces apprentissages dans un monde qui s'industrialise, bien sûr, et qui nécessite des connaissances différentes. Et ces questions accompagnent aussi l'idée qu'il va falloir développer un enseignement moderne et un enseignement aussi scientifique. Hein, les deux choses sont en place. Donc il y a plusieurs tentatives. Hein, par exemple, en 1872, le ministre Jules Simon va tenter de diminuer la place du latin au profit de l'histoire et de la géographie, absolument sans succès, tant les forces de réaction, hein, par rapport à ce changement sont vives. Et finalement, il va falloir un contexte très particulier, un contexte politique qui va permettre en 1880 ce changement. Quel est ce contexte ? Premièrement, la majorité parlementaire obtenue par les Républicains leur permet de modifier la structure du Conseil supérieur de l'instruction publique. Ils sont majoritaires, ils ont les coudées franches, et ils vont modifier statutairement l'instance décisionnaire de l'instruction publique. ce qui va leur permettre de faire rentrer au Conseil supérieur de l'instruction publique des groupes, et notamment un groupe d'enseignants, contestataires, en tout cas souhaitant moderniser, et qui s'est regroupé donc en une société, c'est la Société pour l'étude des questions d'enseignement secondaire. Cette société, à ce moment-là, va jouer un rôle prépondérant, puisque même si ces enseignants sont parfaitement conscients qu'à cette époque-là, les maîtres ne sont pas prêts à enseigner le français, ils ne savent pas le faire, eh bien cette société va tenter, malgré tout le changement, et obtenir, donc, par l'arrêté du 19 juin 1880, la suppression du discours latin. Nous voyons bien que le débat ici, qui a été à la fois politique externe, par sa présence devenant un débat interne très vif, va permettre le changement. Alors, juste une petite remarque, hein, André Chervel insiste, l'objectif n'est pas de supprimer les humanités, mais de les moderniser. Et justement, donc ça c'est le travail de Martin Jay, le corpus utilisé est un corpus du XVIIe qui reprend en quelque sorte hein, ce principe des humanités, donc, mais elles deviennent des humanités modernes. Voilà. Ce qui ne change pas non plus, ce sont les finalités. Il est bien question de continuer à former une élite en leur rapportant, les jeunes lycéens doivent acquérir une haute culture française, justement à travers donc ces humanités modernisées. Et dans le primaire, qu'en est-il ? On voit bien que s'il y a naissance là, dans le primaire, cette naissance ne concerne pas le primaire. Donc dans le primaire, nous avons une situation très différente, on le sait, avec la première partie du 19e siècle, un enseignement primaire très différent selon les régions, avec des maîtres plus ou moins formés, hein, et une scolarité des élèves qui est soumise à de fortes disparités. Disparités régionales, disparités également liées au milieu. On est scolarisé dans les milieux urbains, très peu dans les milieux ruraux. Et puis, disparités liées au sexe, hein, les filles sont vraiment très peu scolarisées. Ce qui va modifier totalement ce paysage, en quelque sorte, c'est l'augmentation du nombre des instituteurs et surtout leur formation. Hein, c'est vraiment à partir du ministère Duruy en 1863, bonjour, c'est vraiment à partir du ministère Duruy en 1863 que nous avons une forte incitation à la formation donc, des instituteurs. Reprenons les débats et voyons comment durant la seconde partie du 19e siècle, eh bien, l'enseignement du français à l'école élémentaire va connaître un certain nombre de débats qui sont justement donc à l'origine, en quelque sorte, de sa formation. Le premier débat, vous le savez, c'est celui de la langue. Quelle langue enseigner aux enfants des classes populaires ? Or là, c'est un véritable débat, puisque d'un côté, nous avons l'Église qui tente de maintenir la présence des patois, avec l'enseignement du catéchisme, par exemple, qui reste en patois, et l'école, qui de plus en plus, bien sûr, va inciter à l'emploi d'une langue nationale. Donc les politiques scolaires vont tenter de renforcer l'emploi de la langue nationale, et c'est vraiment là encore la période de Duruy, à partir de 1863, qui va voir un épanouissement, en quelque sorte, hein, de ces politiques volontaristes pour franciser l'enseignement primaire. Ça, c'est la première question. Cette question, donc, provoque à l'interne des conflits, puisque certains linguistes, hein, comme par exemple Michel Bréal, eh bien, vont défendre le bilinguisme et défendre l'apprentissage du français à côté, naturellement, des patois. Face à lui, des cadres de l'instruction primaire, comme Irénée Carré, eh bien, vont prôner, au contraire, une disparition des patois qui sont souvent associés à une langue populaire, vulgaire, sous prétexte que ce qu'il faut, l'acquisition doit être l'acquisition d'une belle langue française. À la fin du XIXe siècle, le débat pratiquement est clos. Il n'existe plus. La scolarisation des élèves français, de toutes les classes, se fait en français, un français qui devient une langue scolaire, et on le voit, un français qui devient le cœur de notre discipline. Hein, c'est là où il y a vraiment élément donc, de la discipline. l'élément le plus marquant et l'élément qui aura fait tourner le débat, en quelque sorte, c'est bien sûr la formation des maîtres. La formation des maîtres et les écoles normales. Le second débat de l'école primaire, élémentaire, et qui me paraît fondamental, porte sur la manière dont il va falloir enseigner la langue aux enfants des classes populaires. Un véritable débat, puisque la question qui se pose est comment trouver une pédagogie différente de celle des écoles des lycées et qui serait propice à cet enseignement. La question aussi se pose parce que nous ne sommes plus sur un enseignement utilitaire de type lire, écrire, compter, mais sur la nécessité donc d'asseoir de véritables apprentissages. Or, l'apprentissage, sous le Second Empire, se fait beaucoup plus sur la méthode de la répétition, méthode mécaniste. On apprend exactement la grammaire française comme on apprend les langues anciennes. Un apprentissage qui ne marche plus, Duruy, entre autres. J'insiste beaucoup parce que Duruy, à mon avis, joue un rôle tout à fait fondamental. Mais Duruy, entre autres, va dénoncer cet apprentissage et va s'appuyer, lui et son entourage, Octave Greillard notamment, sur les travaux d'un Suisse, le père Girard, qui va proposer des méthodes qu'à l'époque on considère comme des méthodes actives et des méthodes qui sont fondées sur la capacité des enfants à apprendre en utilisant ce qu'ils connaissent déjà. C'est intéressant parce que le père Girard propose que les élèves inventent en partant de leur propre fond et produisent à leur tour quelque chose d'analogue à la leçon qu'ils reçoivent. Ce qu'introduit le père Girard dans la pédagogie du français, ce qu'on introduit en héritage, en réutilisant les thèses du père Girard dans l'enseignement du français à l'école élémentaire, c'est la rédaction. On considère que écrire va s'associer à l'apprentissage de la langue. Il ne suffit pas simplement d'apprendre la grammaire comme on apprendrait une langue autre, il faut mettre en application et justement écrire. Voilà. Donc, ce principe d'un apprentissage malgré tout actif de la langue par l'écriture, même s'il est réservé aux élèves un peu plus grands, mais vous voyez bien que là on a quand même une philosophie de la pédagogie qui apparaît, va être mis en place. Donc ce principe va être mis en place dans le département de la Seine par Octave Greillard, qui est directeur de l'instruction primaire de la Seine et qui recommande à ses instituteurs l'usage de la rédaction. Le 18 juillet 1868, il fixe par règlement l'organisation pédagogique des écoles publiques du département de la Seine. Et c'est lui qui finalement instaure une pédagogie qui restera la configuration de la discipline pour l'école élémentaire pendant de très longues années. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? La lecture et l'écriture comme fondement de l'enseignement élémentaire, un apprentissage de la langue simple et progressif, avec un emploi raisonnable de l'orthographe et de la grammaire. Cet apprentissage qui conduit à la rédaction dans la dernière classe et, nouveauté, la lecture de textes littéraires en prose et en vers va faire, dans ce règlement, dans cette organisation pédagogique, va faire son apparition. Et Greillard recommande donc à ses maîtres du département de la Seine l'usage des recueils de morceaux choisis. Alors, une petite conclusion rapide sur cette partie. Vous le voyez, nous avons affaire à une pédagogie du français qui s'installe avec une finalité très marquée. Il s'agit d'apporter une véritable culture et une éducation intellectuelle, morale et civique aux enfants des classes populaires. Il s'agit d'affermir et de pérenniser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et vous voyez bien qu'on s'éloigne de l'utilitarisme des programmes précédents, notamment de la loi Fallou, des programmes Fallou, qui insistaient pour un apprentissage très basique, du savoir lire et un peu écrire. Voilà. Nous avons une culture donc qui va prendre appui sur les lectures des textes littéraires, même si il y a de vrais débats. Quels textes littéraires lit-on à l'école primaire ? Mais ça, c'est une autre histoire. Et nous avons donc une pédagogie du français élémentaire qui tente en tout point de se différencier de celle du secondaire. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas en 1880 que cette discipline émerge, mais elle date d'avant. Hein, on peut considérer que c'est 1868, dans le département de la Seine, qui est fixée pour la première fois une discipline française pour l'école élémentaire, si on admet qu'il existe une discipline du français à l'école élémentaire. Ça, c'est une autre question, naturellement, hein, que nous pouvons nous poser. Voilà. Nous voyons bien que nous avons deux naissances. Nous voyons bien que nous n'avons pas la même temporalité, que nous n'avons pas les mêmes objectifs, puisque dans un cas, c'est la formation des élites, dans l'autre, une éducation des classes populaires. Mais malgré tout, nous avons deux grandes finalités qui sont communes. Première finalité commune, apporter une éducation morale et civique à tous les jeunes Français. Ça, c'est vraiment la grande finalité commune aux deux ordres, hein, puisqu'on parle des ordres d'enseignement. La deuxième, c'est élaborer une connaissance durable de la langue. Si on reprend un petit peu ce que Jean-François Alté définit comme le fondement même de la discipline, c'est-à-dire la production et la réception des discours oraux et écrits. Hein, production, quel serait le cœur de la discipline pour Jean-François Alté? Quand il se pose la question, il dit, eh bien, ce serait réfléchir à la production et réception des discours oraux et écrits. Eh bien, nous voyons bien que là, nous avons malgré tout un cœur disciplinaire identique, de grandes finalités identiques, mais nous avons des configurations, hein, dans le sens justement de Alté, repris aussi par Yves Rother, des configurations différentes, puisque nous avons des contextes, des classes d'âge, des finalités courtes en quelque sorte, c'est-à-dire des objectifs propres à l'ordre scolaire qui sont différentes. Voilà. Je voulais vous poser une, voire très vite, mais je ne sais pas si c'est central, la période, de toute façon je n'ai plus le temps, donc c'est réglé, la période de 1960-1970 comme étant le moment où se pose la question de l'unification de la discipline. Simplement en quelques mots, hein, là encore, deux périodes, deux débats, et deux débats qui ne se jouent pas sur la même temporalité. Ce qui est intéressant, c'est que pour cette période 1960-1970, c'est une fois de plus le débat dans l'élémentaire qui va précéder le débat dans le secondaire. C'est-à-dire qu'il y a déjà débat certainement dans le secondaire, mais ce débat n'est pas constitué. Or, les changements institutionnels de 1959 conduisent à s'interroger sur le français à l'école élémentaire, surtout un français qui doit conduire à passer au collège. C'est-à-dire que toutes les questions qui sont posées à ce moment-là et que l'on retrouve dans toutes les revues, la question centrale, c'est comment faciliter le passage en sixième. C'est vraiment la question centrale. Or, cette question, on la traite du côté de l'élémentaire, c'est-à-dire qu'on met en place des commissions. Hein, il y a la commission, bien sûr, celle que nous connaissons tous, la commission Rouchette, mais avant la commission Rouchette, nous avons au moins trois ou quatre autres commissions, parfois très brèves, et qui vont poser la question. Et poser la question de l'entrée en sixième, deux réponses possibles. Soit on renforce la discipline en s'obligeant à respecter tout le programme et en apprenant par cœur. Soit on modifie la discipline, le français, hein, bien sûr, et c'est une pression que les groupes, par exemple, comme le GFEN, essayent à ce moment-là de mettre en place, eh bien, on va moderniser et on va surtout modifier les méthodes. Donc ça, la question se pose dans l'enseignement élémentaire. Il faut attendre, notamment, à peu près 1965, hein, alors que ça commence dès 1960 dans l'enseignement élémentaire, il faut attendre à peu près 1967, et c'est vrai, la création de la FPF, qui devient la FEF, hein, c'est-à-dire le fait qu'il y ait vraiment une force de pression, un regroupement des enseignants du secondaire voulant changer, eh bien, il faut attendre ce moment-là pour qu'il y ait, à partir de là, une réflexion qui s'instaure dans le secondaire sur le changement. Or, qu'est-ce qui fait, alors je vais très vite, hein, là, je termine juste, il y a plusieurs blocages. Alors, bien sûr, il y a la création ensuite, en 1970, hein, c'est-à-dire que Guichard, le ministre, prend compte hein, des demandes de changement, création en 1970 de la commission Emmanuel, qui doit instaurer un changement à tous les niveaux en français, hein, de l'enseignement du français à tous les niveaux de l'école. Et il y a bien sûr aussi l'échec de cette commission, Emmanuel, qui ne va rien produire, pour différentes raisons, dont peut-être des forces venant de la FEF qui, là, ne sont pas propices, en tout cas, qui imposent une démarche qui ne permet pas le changement immédiatement. Mais il y a en tout cas plusieurs éléments qui vont faire blocage à ces réformes. La formation des maîtres. Les maîtres ne sont formés à aucun des niveaux pour assimiler une réforme de cette importance. Les instituteurs ont trois réformes à gérer, le tiers-temps, la réforme des maths modernes, la réforme du français, sans aucune formation. Le SNI est contre, naturellement, hein, enfin tout du moins n'est pas propice, les syndicats n'aident pas spécialement, naturellement. Mais à mon avis, ce qui est le plus marquant, c'est le décalage, c'est-à-dire que le changement de rythme entre ce qui se passe dans l'élémentaire, ce qui va se passer au collège et au lycée, c'est ce changement-là qui va, en quelque sorte, empêcher le déroulement et l'aboutissement de cette rénovation, de cette réforme. Pourquoi ? Les enseignants, le collège ne change pas. C'est le collège, en fait, va être le dernier endroit à changer. Les professeurs de l'élémentaire, les maîtres de l'élémentaire, qui étaient prêts à innover, se trouvent confrontés à un véritable problème. S'ils changent, ils créent un dysfonctionnement parce que leur changement de méthode ne permet pas à leurs élèves de réussir la sixième. Marche arrière, d'ailleurs, à la FEF, hein, au congrès de Caen en 1973, eh bien, on note bien que cette situation est une situation de dysfonctionnement majeur, et le fait que le second degré bouge plus lentement que l'élémentaire, eh bien là, provoque en quelque sorte une incapacité, hein, à mener cette rénovation jusqu'au bout. Voilà. Vous le savez aussi, hein, Abby, en 1975, va prendre en compte ce dysfonctionnement et va bien sûr faire marche arrière, en quelque sorte, hein, dans les programmes de l'élémentaire, mais également, s'il introduit des changements dans les programmes du secondaire, on peut s'interroger sur l'aspect novateur des changements qu'il introduit. Voilà, je conclue en un mot. On le voit, la question de l'unité de la discipline est une véritable question. On voit qu'à chaque fois, nous avons des temporalités différentes, selon les niveaux. Nous avons des finalités, nous avons aussi des rythmes particuliers. Donc, la notion de configuration permet de penser ces variations, tout en restant sur l'idée qu'il existe quelque chose de l'ordre d'un noyau dur, commun, hein, à tous les niveaux, donc, et aussi à toutes les filières. Voilà, pour ma part, j'ai fini. Ah, juste un petit mot, d'ailleurs. Quand on compare avec les mathématiciens, c'est intéressant. Parce qu'ils n'ont pas du tout... Je veux dire, ils pensent leur discipline comme une unité, et du coup, ils réussissent la rénovation, la réforme des maths modernes, justement parce que cette réforme est pensée au niveau de la totalité de la discipline. Voilà. Et c'est vrai que ça nous donne en miroir quelque chose sur notre fonctionnement de la discipline.